Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre méditation de carême nous fera prendre en considération la sollicitude du Christ. Cette sollicitude qui s'exprime notamment à travers l'onction des malades et le sacrement de la réconciliation. Dans l'évangile de Marc, dans le début de l'évangile de Marc, vous connaissez cette scène, un paralysé est amené à Jésus par quatre hommes, et la scène est pleine de vie. Il faut que ces hommes passent par le toit de la maison parce que la foule encombre le passage. Un paralysé ou un paralytique porté par d'autres. Et puis Jésus qui voit leur foi, qui sent à la fois les besoins les plus profonds de cet homme et qui voit la foi de ceux qui l'accompagnent. Et Jésus qui dit « Tes péchés sont pardonnés ». L'assistance s'étonne, certains murmurent, et Jésus prolonge son geste en disant au paralytique « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Et aussitôt celui-ci de se lever. Cette scène nous dit quelque chose de la sollicitude du Christ pour l'humanité blessée. Cet homme, c'est l'humanité à la fois paralysée par la maladie, souvent, trop souvent, et aussi blessée par le péché, chacun d'entre nous. À travers le geste du Christ, déjà quelque chose s'annonce de la proximité du règne de Dieu. Dieu se fait proche en Jésus. Son règne, son royaume nous rejoint. Alors notre méditation, je le disais tout à l'heure, portera tout d'abord sur le sacrement des malades, ou l'onction des malades, et puis ensuite sur la réconciliation. Parmi les sept sacrements, l'onction des malades peut sembler un peu à part. D'une certaine manière, il est un peu marginal, on pourrait presque l'oublier. Beaucoup de chrétiens ne le recevront jamais, ou pas avant un âge avancé. Beaucoup de prêtres ne le célébreront que peu. Moi-même, j'ai été aumônier d'hôpital à un moment donné, mais avant d'être aumônier d'hôpital, je ne l'avais célébré que trois fois. Ce sacrement pourrait sembler ne pas être au cœur de la vie de l'Église, de la vie chrétienne ordinaire, au moins apparemment. Il ne semble pas mettre en évidence une réalité essentielle du credo. Pourtant, comme nous allons le voir, il dit quelque chose de vital, à savoir la sollicitude de Dieu et du Christ pour les personnes gravement malades ou âgées. De plus, pour ces personnes, ce sacrement est un don précieux, un don pour aller plus loin dans la foi, l'espérance et la charité, alors même que leur vie, que leur relation à Dieu, à eux-mêmes et aux autres, est bouleversée par la maladie ou la vieillesse. Tout d'abord, quelques mots sur la célébration. Lors du sacrement des malades, un prêtre va oindre le front et les mains de la personne malade avec l'huile bénie, demandant au Seigneur réconfort et salut pour elle. Le prêtre s'adresse à la personne malade et lui dit « Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. » L'onction d'huile manifeste et signifie ainsi l'onction de l'Esprit Saint. Normalement, cette onction est précédée par un autre beau geste, l'imposition des mains. Et puis, comme dans tout sacrement, il y a place à la parole de Dieu, et comme dans tout sacrement, c'est en lien avec l'Église et dans la foi que se célèbre celui-ci. L'onction se fait avec une huile d'olive ou une huile végétale, souvent très parfumée, si possible avec celle qu'a béni l'évêque lors de la messe chrismale, montrant ainsi le lien à toute l'Église. Avec la communion portée aux malades, le sacrement des malades ou l'onction des malades est un élément important pour la présence de l'Église et de chaque chrétien auprès d'eux, que ces malades soient chez eux, en maison de retraite ou à l'hôpital. Il faut souligner le lien aux autres sacrements, tout d'abord au baptême, l'entrée dans la vie d'enfant de Dieu, le lien à l'Eucharistie, mémorial de la Pâque du Seigneur, centre et sommet de la vie chrétienne. Ce sacrement peut être célébré tant de manière communautaire, dans une chapelle ou dans une église, il est célébré de temps en temps dans cette église Saint-Ignace, notamment au cours d'une messe, que, s'il est besoin, de manière plus individuelle. Il peut être célébré dans la chambre d'un malade, le malade étant seul ou entouré de quelques proches. Quelques mots du Nouveau Testament qui éclairent ce sacrement. L'institution de l'onction des malades est évoquée dans l'épître de Saint Jacques. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'il prie sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. » Lettre de Saint Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. C'est sur ce texte notamment que l'Église s'appuie pour comprendre et définir ce sacrement. Mais bien plus largement, ce sont tous les évangiles qui nous montrent l'attention du Christ aux malades. Par sa prière tout d'abord, par les gestes très nombreux et très divers de guérison ensuite, par ses enseignements également. Et puis, d'une manière plus profonde encore, par sa passion et son mystère pascal de mort et de résurrection. Les guérisons de Jésus, je le disais tout à l'heure, sont autant de signes de la venue du royaume de Dieu. La compassion du Christ envers les malades et ses nombreuses guérisons sont un signe éclatant que Dieu a visité son peuple, que le royaume de Dieu est tout proche. Il est venu guérir l'homme tout entier, âme et corps, comme dans ce récit de Marc que je citais au début de notre rencontre. L'amour de prédilection de Jésus pour les infirmes, les malades, n'a cessé tout au long des siècles d'éveiller l'attention des chrétiens envers tous ceux qui souffrent. Elle est aussi à l'origine d'efforts inlassables pour les soulager, y compris à travers les soins infirmiers et la médecine. Alors, quelques questions que nous posons à propos de ce sacrement. Quels en sont les effets ? Quels sont les effets du sacrement des malades ? Ce sacrement est un don particulier de l'Esprit-Saint. Il est une grâce de réconfort, de paix et de courage face à l'épreuve. Il fortifie la foi. Il permet l'union au Christ dans son mystère pascal et à l'Église. Et c'est aussi parfois la préparation au dernier passage, au passage de cette terre vers la vie en Dieu. Ainsi, le Seigneur, par la force de son esprit, veut conduire le malade à la guérison de l'âme, mais aussi à celle du corps, si telle est la volonté de Dieu, ainsi qu'au pardon des péchés. L'onction des malades achève de nous conformer à la mort et à la résurrection du Christ, comme le baptême avait commencé de le faire. Ce sacrement, bien sûr, est pour des cas de maladie grave ou de vieillesse déjà assez avancée. On ne reçoit pas le sacrement des malades pour un rhume, mais on peut le recevoir plusieurs fois, autant de fois que nécessaire, à condition bien sûr de motifs et de délais raisonnables. Ça peut être le cas, par exemple, lors d'une nouvelle étape dans une maladie, entraînant un changement de condition de vie ou l'approche de la fin. Le vocabulaire a pu changer. Est-ce que l'onction des malades, c'est la même chose que l'extrême onction ? Oui. Le sacrement des malades a longtemps été appelé, à partir du Moyen Âge, extrême onction. Le Concile Vatican II recommande le terme onction des malades, qui montre la destination plus large de ce sacrement, qui n'est pas pour les seuls mourants, mais pour tous ceux qui, dans la maladie, l'affaiblissement ou la vieillesse, ont besoin du soulagement et du salut qu'apporte le Christ. Dans l'Antiquité, vous le savez, on faisait assez facilement des onctions d'huile ou d'onguents pour les malades et les sportifs, y compris dans l'Antiquité païenne. Et les premiers chrétiens ont repris ce geste, mais en appelant l'aide de Dieu et la force du salut pour ceux qui étaient malades. Ils se situaient ainsi dans le sillage du Christ, lui dont la présence et l'attention auprès des malades a représenté une bonne part de sa vie publique. Cette sollicitude du Christ va jusqu'à permettre de donner ce sacrement à des personnes inconscientes. Si une personne malade a demandé ce sacrement lorsqu'elle était consciente, ne serait-ce que d'une manière implicite, un prêtre pourra lui donner ce sacrement si elle est dans le coma ou si elle est inconsciente. Bien sûr, ce sacrement doit être célébré autant que possible quand la personne est consciente, lui permettant ainsi d'entendre la parole de Dieu, de prier, d'acquiescer au don qu'apporte le sacrement. Mais la présence de Dieu, la présence du Christ va plus loin. Et une personne chrétienne, inconsciente, n'en est pas moins chrétienne pour autant. Elle peut recevoir la grâce de ce sacrement. Le salut donné par le Verbe incarné passe par notre propre chair. Et cela vaut particulièrement dans deux cas. Celui de l'enfant encore incapable d'exprimer qui reçoit le baptême dans la foi de l'Église et de ses proches. Et puis celui du sacrement des malades qui peut être donné à une personne inconsciente mais qu'il avait souhaité ou demandé. Notre corps n'est pas moins nous-mêmes que notre esprit. Le don de Dieu nous rejoint que nous en ayons conscience ou non, et toujours au-delà de ce que notre intelligence peut en percevoir. D'une certaine manière, cela manifeste aussi l'infinie dignité de l'être humain jusqu'à la fin. Les soins infirmiers, comme on le sait, sont normalement apportés jusqu'à la mort, eh bien, il en est de même pour l'accompagnement spirituel par la prière et par ce sacrement. Le Verbe s'est fait chair, et tout être humain, dans sa chair et son corps, en a reçu une dignité nouvelle. Il en est sanctifié. Ce sacrement a une histoire complexe, je ne la referai pas. Dès l'Antiquité, le lien avec l'évêque est très fort puisqu'il s'agit de l'huile bénie par l'évêque. À l'époque, souvent des laïcs prennent l'huile consacrée par l'évêque pour oindre le malade. Ce qui est premier à cette époque, c'est le soulagement attendu par cette onction. En Occident, à partir du Moyen-Âge, deux accents se font sentir. D'une part, l'importance du pardon des péchés, sur lequel on insiste plus à l'époque que sur le réconfort et le soulagement. Et puis d'autre part, sur le fait que les mourants en deviennent les principaux destinataires, d'où le nom, comme je le disais, d'extrême onction. Le ministre, celui qui donne le sacrement, est le prêtre. Le Concile Vatican II a restauré un usage plus large et pas seulement pour les mourants. Les deux dimensions soulignées par la lettre de Jacques, d'un côté soulagement et santé, de l'autre pardon et salut, sont ainsi indissociables. Même si, suivant les époques, les personnes et les lieux et les situations, l'un ou l'autre aspect est davantage accentué. Oui, Jésus est venu pour sauver tout homme et tout l'homme, quel que soit notre état, y compris dans la maladie grave et la fin de vie. Le Christ vient vers nous. L'onction des malades est l'un des moyens de sa présence qui nous unit au Père dans l'Esprit Saint. Le pape François disait, lors d'une des audiences générales, « Le Seigneur Jésus, dans la personne du prêtre, se fait proche de celui qui souffre et qui est gravement malade ou âgé. » Et le pape ajoutait, c'est Jésus lui-même qui arrive pour soulager le malade, pour lui donner la force, pour lui donner l'espérance, pour l'aider, et aussi pour lui pardonner ses péchés. Et cela est très beau. Et il concluait, je vous invite à ne pas oublier l'importance du sacrement des malades. La mort et la maladie ne sont pas des tabous. N'hésitez pas à proposer ce sacrement aux personnes qui souffrent pour que Jésus leur donne sa consolation et sa paix. Voilà une invitation qui peut valoir pour chacun de nous, qui peut valoir aussi pour nos proches. Et puis, le sacrement du pardon et de la réconciliation. J'aurais pu commencer par cela, j'ai commencé par l'onction des malades. Dans l'Évangile, les appels à la conversion et au pardon sont multiples. Le pardon et la réconciliation avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes, nous mettent du côté de la vie. Une vie à recevoir, à choisir, à redonner. Une vie à recevoir sans cesse à nouveau. Une vie à choisir. Souvenez-vous, l'appel de Dieu par la bouche de Moïse dans le chapitre 30e du Deutéronome. Je mets devant toi la mort et la vie, le malheur et le bonheur. Choisis donc la vie. Une vie à redonner. La vie m'est donnée pour que par moi elle soit aussi donnée aux autres. Dieu est toujours le premier, il est celui qui a l'initiative, il est le premier dans le don, il est le premier dans le pardon. Et pourtant, il nous est donné aussi d'avancer sur ce chemin, non pas simplement d'accueillir passivement les dons et le pardon du Seigneur, mais d'une certaine manière de coopérer à l'œuvre de Dieu en nous et dans le monde. D'avancer, d'œuvrer sous la lumière de Dieu, qui aime en premier, pas après pas, patiemment, dans l'humilité et la confiance, et en nous tournant toujours vers la source. Nous ne connaissons vraiment notre péché que sous la douce lumière de Dieu. On ne connaît vraiment ce qu'est le pardon qu'en découvrant le pardon du Seigneur. Un mot très bref sur l'histoire de ce sacrement, qui est complexe. Voilà, parmi les sacrements, certains ont une histoire plus complexe que d'autres. C'est le cas du sacrement des malades, c'est le cas du sacrement de la réconciliation, ce serait le cas aussi du mariage. Dans l'Antiquité, le sacrement par excellence, et cela reste toujours vrai, le sacrement par excellence qui manifeste le pardon du Seigneur et la vie nouvelle, c'est le baptême, bien sûr. Mais une fois dans sa vie, le chrétien, pour des péchés graves, pourra faire une pénitence et manifester son désir de conversion et l'accueil du pardon du Seigneur, une fois dans sa vie, à travers une pénitence publique et longue. Alors cela a lieu pour des péchés graves, un meurtre par exemple, ou bien le fait d'avoir renoncé à sa foi, d'avoir renié sa foi. Cela est magnifique, un chemin communautaire, un chemin où il y a une réconciliation publique à Pâques, et en même temps est tellement exigeant que cela devient presque impossible de vivre la réconciliation, au point que certains païens qui ont découvert la foi dans le Christ attendent pour se faire baptiser, de peur de pécher gravement après le baptême. Et puis une nouvelle figure se dessine, en gros, à partir du haut Moyen-Âge, sous l'influence des moines. Progressivement, la confession individuelle, auriculaire, d'oreille, de la bouche à l'oreille, naît et devient la manière de vivre ce sacrement. La pratique actuelle est marquée par quatre mots qui peuvent sembler compliqués ou un peu anciens, contrition, aveu, absolution. Réparation. Suivant les personnes et les moments, on assistera plus ou moins sur l'un ou sur l'autre. La contrition. La contrition, on pourrait dire le repentir, le regret. J'ai manqué à l'amour de Dieu, à l'amour de mes frères, et je le regrette. Alors je peux regretter par amour, La contrition, dans ce qu'elle a de meilleur, c'est ce qui est inspiré par l'amour de Dieu et du prochain. Parfois, nous regrettons à cause des conséquences négatives ou de la peur de la punition. C'est une contrition imparfaite, mais qui déjà peut nous mener vers la conversion. L'aveu. Pouvoir dire « c'est péché », voir où est la faute, mon manque d'amour. Avec un désir de changer quelque chose de ma vie, de mon attitude, ou au moins d'essayer de changer. Un aveu selon dont chacun est capable. Si j'ai oublié, ben je ne peux pas avouer la faute que j'ai oubliée. S'il m'est impossible de parler, je peux simplement, j'ai vu cela, exprimer par le regard, en clignant des yeux, ma demande de pardon. La réception de l'absolution, quand le prêtre donne au nom du Christ et de l'Église l'absolution, d'une certaine manière, il me permet de replonger dans la grâce du baptême. La réparation. Peut-être que les conséquences de mes actes ont quelque chose qui dure, quelque chose qui a à être réparé. Si j'ai volé quelque chose, je dois restituer autant que possible. Et puis aussi, dans le désir de montrer que je veux changer quelque chose en moi et dans le monde, bien sûr, mon geste de pénitence, ma réparation ne seront jamais à la hauteur de ce que j'ai pu rompre de l'amour de Dieu ou du prochain, mais par le jeûne, la prière, le partage, par d'autres œuvres bonnes, je peux montrer mon désir d'entrer sur un chemin d'évangile. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de ce sacrement ? Au cœur de ce sacrement, je crois, il s'agit de venir déposer devant Dieu nos péchés, nos faiblesses, nos infidélités, et de les exposer à sa miséricorde. Dieu est amour et pardon, et le péché qui était occasion de m'éloigner de lui devient le lieu où Dieu se fait proche de moi, où il me donne plus de force pour aimer. Ne pas lui avouer que je suis pécheur, c'est d'une certaine manière l'empêcher de m'aimer tel que je suis, avec tout ce que je suis. Souvenez-vous, avec l'histoire d'Abel et de Caïn, Caïn se cache. Il est dans le déni, il est dans le mensonge après le meurtre. Alors que la guérison serait dans la rencontre de Dieu, l'aveu de sa faiblesse pour pouvoir accueillir un chemin nouveau. Il en est de même dans l'histoire un peu compliquée à propos d'Adam, d'Ève et du serpent. Le fruit de la confession des péchés, le fruit du sacrement, eh bien, il peut être divers. On pourrait mettre les fruits plutôt que le fruit. Un premier fruit, je crois, c'est de pouvoir se tourner vers la miséricorde aimante de Dieu, d'y puiser lumière et force, de demander sa grâce et sa bonté. Par le péché, je me détournais de Dieu ou de mes frères, petitement ou gravement. Par la confession, je me mets devant Dieu et sa miséricorde. Non pas d'abord un regard sur moi-même, pécheur, mais un regard sur Dieu, qui m'aime et qui m'appelle. Le deuxième fruit, c'est de découvrir quels sont mes péchés, d'en avoir la douleur, de trouver le désir de progresser, comme une pédagogie sur le chemin de l'Évangile. De creuser aussi en moi l'homme intérieur, une connaissance plus fine des choses spirituelles. Cela nous aide, cela aide notre intelligence et notre cœur à être plus capables d'attention, de délicatesse, d'amour véritable. Alors écoutons Saint Paul nous dire et nous inviter, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Vous avez reconnu un verset de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, 20. Quand je m'adresse au prêtre pour la réconciliation, la parole que je dis vient de plus loin que moi. C'est Jésus qui me prend avec lui, comme lorsqu'il est venu parmi les pécheurs, et Jésus me ramène au Père. Et le prêtre, au nom de l'Église, au nom de la communauté croyante, me redit d'une certaine manière les paroles du Christ « Va et ne pêche plus ». Alors ce ne sont pas les paroles que vous dira le prêtre, mais d'une certaine manière c'est cela, l'axe du sacrement. Comment et quand me confesser ? Librement, bien sûr, au prêtre que je choisis. Il peut être bien de choisir quelqu'un qui ne nous fait pas peur. Parfois, il peut être bon de se confesser régulièrement à un même prêtre qui va pouvoir nous connaître et nous donner quelques conseils, peut-être. Ou bien à un prêtre que je ne connais pas, parce que c'est plus facile pour moi. D'une certaine manière, tout est possible si cela m'aide à rencontrer la miséricorde de Dieu. Quand la nécessité est là, j'ai péché gravement, j'ai assassiné quelqu'un. Je ne vais pas attendre, peut-être que je vais attendre d'avoir fait mes 20 ans de prison pour me confesser, mais peut-être que je peux le faire avant. Ou bien parce que, à travers l'expérience d'une retraite ou d'un temps liturgique particulier, comme le carême, le désir a fait son chemin en mon cœur. Pour préparer le sacrement et la confession, je peux tout d'abord me souvenir de la bonté, de la grâce, du bonheur que Dieu veut pour nous et pour moi. Je peux examiner ma conscience dans les divers secteurs de ma vie, mon travail, mes relations avec les autres, ma vie familiale, affective, ma relation à Dieu et tout ce que j'ai pu entendre comme appel de la parole de Dieu dans la prière. Il y a de multiples manières de faire cela, de se préparer. Ce peut être ma relation avec moi-même, comment je mène ma vie. Est-ce que j'apprends à m'aimer comme Dieu m'aime? Est-ce que j'apprends à m'ouvrir comme Dieu m'y invite? Ma relation avec les autres, place de la justice, de la juste relation, de l'attention, de la parole juste et qui encourage, par exemple. Ma relation avec Dieu. Quelle est la place que je lui fais dans ma vie? Quelle est ma confiance? Ou bien ai-je des idoles dans ma vie qui m'éloignent du vrai Dieu? Voilà, pouvoir préparer ce temps dans un climat de prière. Alors, ce sacrement, je crois, est à la fois magnifique et difficile. Je trouve que c'est l'un des plus beaux sacrements que l'Église puisse nous proposer. Et en même temps, et sans doute beaucoup d'entre vous l'avez expérimenté, ce n'est pas facile. Alors, quelques difficultés. Tout d'abord, ce n'est pas facile de parler, et c'est vrai. Et le prêtre, qui est un pécheur comme vous, le sait pour lui-même. Mais il y a un grand bien et un grand bonheur à faire la vérité dans sa vie sous le regard aimant de Dieu. Une autre difficulté, je ne regrette pas complètement. J'ai mangé les bonbons de ma petite sœur et ils étaient très bons. Alors ça, c'est la confession d'un enfant. Mais nous sommes un peu comme des enfants. Eh bien, allons-y, au moins avec le désir de progresser. C'est en faisant des premiers pas que l'enfant apprend à marcher. Eh bien, imitons les enfants, apprenons à marcher par des premiers pas. Une autre difficulté, c'est toujours la même chose. D'abord, nous pouvons rendre grâce à Dieu de ne pas inventer chaque semaine de nouveaux péchés. Et puis, Dieu ne nous demande pas d'aimer avec le personnage parfait, idéal, que nous aimerions être. Ce personnage-là, il n'existe pas. Osons, au contraire, apprendre à aimer avec ce qui est fragile, ordinaire, vulnérable en nous. Me voici, Seigneur. Me voici, je suis indécrottable, mais me voici. Et d'ailleurs, le fruit de la confession n'est pas toujours celui que l'on prend. Que l'on croit. En avouant notre difficulté à aimer dans un secteur de notre vie, nous entrons dans une démarche qui nous aidera peut-être à aimer plus véritablement, plus profondément, dans un autre secteur de notre existence. Oui, le sacrement de la réconciliation est un chemin de vie, un très beau sacrement. Dans l'Évangile, selon saint Jean, cette parole du Christ nous est transmise « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et à un autre endroit, « La vérité vous rendra libre. » Le sacrement de la réconciliation nous met sur ce chemin-là, une route, une aventure, et qui vaut le coup. Le sacrement de la réconciliation laisse venir à la lumière de Dieu, laisse venir la lumière de Dieu sur nos lieux de fermeture et d'obscurité. Ce n'est pas une lumière froide, cruelle, il ne s'agit pas simplement d'un acte de lucidité. C'est une lumière douce qui réchauffe doucement en nous ce qui était froid, qui cicatrise progressivement ce qui était blessé ou envenimé. Le chemin de la réconciliation est un chemin de vie. Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ, nous dit saint Paul. La réconciliation rend plus actuelle cette vie faite pour aimer Dieu et pour aimer le prochain. Alors à chacun d'entre nous d'entendre cet appel à vivre de cette vie de Dieu, y compris avec le sacrement de la réconciliation. Je vais terminer ici. Nous pouvons nous confier à l'Esprit de Dieu pour qu'il vienne en nous travailler tout ce qui a besoin d'être travaillé, pour qu'il ouvre notre cœur et notre intelligence. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la quatrième méditation de Carême sur les sacrements, dont pour la vie du monde. Le thème, mardi prochain 20 mars, envoyé dans notre monde, le mariage et l'ordre. Bon après-midi à chacun et à chacune, bon temps de carême.